16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission où chaque après-midi, on en apprend de belles sur l'histoire, la petite, la grande, et parfois la petite dans la grande. Même Stéphane Bern apprend des trucs parfois comme hier en antenne.
Chopin en été, eh ben dis donc.
Bonjour Stéphane, alors vous êtes remis de cette nouvelle? Et Chopin en été, visiblement.
Pas tout à fait Mathieu, pas tout à fait. Donc c'est... Ça m'a tellement...
Ça vous a scié.
Ah, ça m'a scié, oui. Bonjour à tous, oui, j'ai du mal à m'en remettre. Ravi de vous retrouver pour 2 heures de gai savoir, ce qui aurait plu à Chopin, à la rencontre...
Et donc, vous avez persona non grata en Pologne, hein, Stéphane.
Ah ben, c'est moi qui l'ai
raconté. Moi, j'ai pas l'intention d'aller en Pologne prochainement. Hein. Je ne suis pas une globe trotteuse de votre
acabit. À la rencontre, comme d'habitude, de 3 personnages différents, mais qui avaient un point commun aujourd'hui, plus qu'un thème, c'est un hymne. Partir un jour sans retour avec notre invité spécial Bruno Solo qui va nous accompagner jusqu'à 17h.
Non pas parce qu'il était membre des To Be Free,
c'est bien, c'est bien. J'en ai gardé que le physique mais pas le talent je crois.
Mais parce qu'il a écrit un bouquin passionnant dans lequel il convie à dîner de grandes personnalités de l'histoire, un peu comme moi quand je dîne avec vous Stéphane. Un livre dans lequel figure notamment un de nos personnages du jour. Bonjour Bruno Solo.
Bonjour les amis.
Oui effectivement lui aussi est parti un jour sans retour. Je vous raconte dans un instant René Robert Cavelier de la Salle, que vous invitez dans votre livre, cher Bruno, un aventurier qui est parti chercher le Mississippi et qui a laissé sa vie. Puis, il partage ce point commun avec lui, je vous raconte, Percy Fawcett. C'est un cartographe parti explorer l'Amazonie, convaincu de trouver une cité perdue où il y avait la vie et une civilisation avancée, mais lui, il va surtout y trouver la mort, vous verrez. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un trio à qui on doit notre thème. Et dont le souvenir affole encore votre cœur, hein, et pas que.
Certes, voilà un groupe que Chopin aurait adoré, les To Be Free. Et oui, Bruno, il y aura aux alentours de 17h20. Et oui, aux alentours de 17h20, il y aura un portrait dans cette émission d'histoire consacrée aux To Be Free. Je sais ce que vous vous dites.
Ah non, mais là, c'est du vice.
Non, vous vous dites, quel dommage que je dois partir à 17h. T'inquiète, je t'enverrai une cassette.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour messieurs. Eh bien,
écoutez, qui fait son coming out alors aujourd'hui?
Vous allez voir. Non, en tout cas, peut-être vous, Bruno Solo, parce que j'ai lu votre bouquin dans lequel vous imaginez, c'est vraiment très, très vivant, très passionnant. Vous imaginez que vous recevez à table de grands personnages historiques, mais sur les 11 personnages, il ne pouvait pas y en avoir plus, parce qu'après, avec Bruno Solo, ça faisait 13, on ne peut pas être 13 à table. Et sur les 11 personnages, il y a 3 femmes, hein, Aliénor d'Aquitaine, Christine de Pizan et Louise Michel, et donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Christine de Pizan, la première femme de lettres de l'histoire de France.
Alors, avec David Castel-Lopez, on remonte aux origines d'une invention qui fait notre quotidien.
Oui.
Et aujourd'hui...
Le quotidien des journalistes de quotidien, d'ailleurs, en particulier.
Oui, de tous les bobos parisiens.
Et de tous les bobos parisiens, c'est la Stan Smith.
Ah oui. La vieille ou la nouvelle?
Bah, justement.
Elle est proche, non?
Celle de l'origine, qui ne s'appelait pas Stan Smith au départ, qui avait le nom d'un autre joueur de tennis. Ah bon, je vous dirai lequel. Oui.
Et puis il est avec nous également notre spécialiste gastronomique Olivier Pouls. D'habitude Bruno, c'est toujours une recette qui nous met l'eau à la bouche, et là aujourd'hui la recette, je vous la lis telle quelle: les ailes de raie à la grenobloise.
Ça vous met pas l'eau à la bouche?
Alors pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est.
C'est quoi la grenobloise? Il y a des câbles.
Alors c'est une sauce particulière qui contient... Non, pas de noix, qui contient des câbles.
Et en quoi c'est grenobloise, les câbles?
Du beurre noir.
C'est la raie qui est grenobloise.
C'est la manière.
Peu de chance à la question.
Il faut aller la pêcher à Grenoble.
Encore en outing.
Il n'y a pas de raie dans l'Isère, excusez-moi.
Non, mais justement, vous verrez que dans l'histoire de la recette, puisque je vous expliquerai pourquoi on appelle ça l'aile de raie à la grenobloise et d'où vient cette sauce, il y a une relation justement entre Grenoble et le fait que la mer soit un petit peu loin.
Voilà. Comment la conserver?
Moi, j'adore ça, moi.
Depuis la moitié d'or, l'aile de raie.
C'est un plat fantastique.
D'accord, il n'y a que moi qui ne connais pas. D'accord.
On va vous la faire goûter.
Oui, mais volontiers, Stéphane, volontiers. Enfin, c'est une édition.
De quoi? J'aimerais que tu termines la phrase quand même.
Enfin, c'est une édition tout à fait exceptionnelle de Bern to be Alive qui nous attend aujourd'hui, puisque aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais poser les questions, mais notre invité, Bruno Solo. Des questions plus perfides encore que les miennes et concernant les personnages de son livre, pour vérifier, Stéphane, que vous l'avez bien lu.
Ah merde.
Comme vous dites, mon vieux. Mais tout de suite, il est temps de plonger dans la formidable histoire de notre premier personnage.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
L'important, dit le proverbe, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Lui aurait-il pu faire sienne sa maxime? Pas sûr, car un but, il en avait un. Stéphane Bern nous raconte l'aventurier du grand siècle qui, à force de vouloir atteindre sa destination, a fini par ne jamais revenir. René Robert, cavalier de la Salle.
Les voyages, René Robert, cavalier de la Salle, il connaît, pionnier, il a exploré une bonne partie de l'Amérique du Nord à la fin du XVIIe siècle, au temps où cette terre inconnue était peuplée de tribus autochtones que les Blancs n'avaient pas encore décimées. Rien ne prédestinait pourtant René Robert, cavalier de la Salle, à une vie de voyageur. Né en 1643 à Rouen, dans une famille bourgeoise, il fait ses études chez les jésuites, avant de prononcer ses vœux ecclésiastiques à 17 ans, puis d'enseigner un temps dans divers lycées de la congrégation. Mais son tempérament ne s'accorde pas vraiment avec l'étude et la prêtrise. Querelleur, ambitieux, sa carrure, autant que son caractère, n'était pas adaptée à cette vie étriquée. Alors, c'est décidé pour lui, l'église, c'est terminé. Il obtient en 1667 la révocation de ses vœux. Désormais libre, mais sans métier ni fortune, il part alors à l'aventure. Destination la Nouvelle-France, où il obtient une petite seigneurie sur l'île de Montréal, un fief qu'il abandonne afin de poursuivre sa nouvelle obsession, découvrir un passage vers l'océan Pacifique. René Robert Cavalier de la Salle pense y arriver en suivant la rivière Ohio. Il monte une petite expédition, cap à l'ouest. Malgré ce qu'il avait pourtant annoncé, ses connaissances en navigation, en astronomie ou en langue des peuplades locales s'avèrent plus que limitées. Il passe carrément pour un incompétent et l'entreprise tourne court. Après avoir passé quelques années on ne sait trop où, peut-être à trafiquer des fourrures dans le but de s'enrichir, une autre obsession, La Salle revient en France et parvient à être missionné très officiellement par le roi Louis XIV pour explorer la région centrale de l'Amérique du Nord, en s'assurant bien, au passage, que lui échoira la qualité de gouverneur des pays découverts. Il s'agit pour lui de passer à l'ouest des colonies britanniques basées sur la côte pour aller jusqu'au sud, entre les terres espagnoles de la Floride et du Mexique. Il est le premier à avoir parcouru la totalité du Mississippi, soit environ 3000 km. Et faute d'avoir trouvé un passage vers le Pacifique, il établit la possibilité d'un lien vers l'Atlantique. Le 9 avril 1682, vêtu tel un empereur et dans une solennité pompeuse, La Salle fait dresser une croix et graver une plaque commémorant la prise de possession au nom du roi de France de la région qu'il vient de découvrir. Il la nomme Louisiane, en l'honneur du monarque, un monarque qui, l'apprenant, ne voit pas bien l'intérêt d'une telle découverte. On est bien loin des rémunératrices fourrures du Canada ou des mines d'or du Mexique espagnol. La Salle et ses hommes ne traînent pas longtemps dans l'embouchure du Mississippi, les Indiens Kinipissas qui occupent la région n'étant pas particulièrement accueillants avec ces intrus. L'aventurier préfère rentrer en France pour vanter les mérites de son nouveau projet, celui de rejoindre l'embouchure du Mississippi par la mer pour y fonder un nouvel établissement français. Pour ce faire, il s'appuie sur quelques intrigants à la cour et falsifie les comptes rendus de son expédition pour faire miroiter un nouvel Eldorado. Il fait passer le delta marécageux et insalubre pour un havre idéal, prêt à accueillir les navires qui pourraient remonter très loin dans les terres. Et il place le fleuve plus à l'ouest qu'il n'est dans la réalité, pour le rapprocher des terres espagnoles et de leurs richesses, qui seraient donc à portée de conquête. Louis XIV, qui a notamment comme passion de guerroyer contre l'Espagne, donne évidemment son accord. Le 24 juillet 1684, une flotte de 4 navires quitte alors le port de La Rochelle. Destination donc l'embouchure du Mississippi, même si personne ne sait trop comment y arriver. Dès le premier jour, un mât se brise. Mauvais présage. On passe par Rochefort pour réparer l'avarie et l'Atlantique s'ouvre enfin. Au bout d'une semaine à peine, le commandant Beaujeu, qui dirige l'escouade, note « Je vais dans un pays inconnu chercher une chose presque aussi difficile à trouver que la pierre philosophale dans une saison avancée avec un homme chagrin. » L'homme chagrin, c'est René Robert, cavalier de la Salle, probablement vexé de ne pas être commandant en chef sur le navire. Beaujeu, de son côté, est atterré par l'inconséquence et les piètres aptitudes de ce vaniteux aventurier. À l'automne, la flottille arrive aux Antilles, chargée de nombreux malades et de matelots affaiblis. Le bateau qui transportait vivres et fournitures est, lui, capturé par les Espagnols. Qu'à cela ne tienne, on continue. En décembre, les trois navires restants s'élancent dans le golfe du Mexique. Le but est proche, La Salle le sait, La Salle le sent. L'aventurier passe en effet tout près de l'embouchure tant désirée, mais n'en perçoit pas les signes. Il pense dériver vers l'est alors que la flotte va justement beaucoup trop à l'ouest et se retrouve bien loin sur les côtes de l'actuel Texas. Il faut avouer que le calcul des longitudes n'est pas très précis à l'époque. On suit les rivages, on lance des expéditions terrestres pour trouver le fameux fleuve. Les navires se perdent puis se retrouvent. Un vaisseau part explorer un bras de rivière avant de faire naufrage. Les tribus amérindiennes s'en mêlent, les échauffourées se multiplient. De nombreux hommes désertent. En mars 1685, le commandant Beaujeu, lassé, quitte l'expédition pour retourner en France. Sur les quatre navires du départ, il n'en reste désormais qu'un seul et toujours pas de Mississippi en vue. Le reste des troupes, près de 130 personnes, sur 300 à l'origine, s'installent sur la terre ferme. On construit un fort que l'on nomme Fort Saint-Louis, qui servira de camp de base pour chercher le fleuve. Il ne doit plus être loin, bon sens, ce Mississippi. Il n'est effectivement qu'à 500 km. Mais ça, ouais, personne ne le sait. Non. La vie suit son cours, on célèbre même un mariage entre rencontres plus ou moins amicales et meurtrières avec les Amérindiens, morsures de serpents, noyades, prédations par les alligators, en plus des fièvres qui éreintent tout le monde sous ce climat tropical. René Robert de La Salle se lance dans maintes reconnaissances le long de la côte en bateau et à pied dans les terres alentours. Il traverse forêts impénétrables et marais putrides, tente de remonter chaque petit cours d'eau en espérant qu'ils mèneront vers le fleuve Mississippi. En vain. Après avoir changé de campement et construit un nouveau fort, le dernier bateau est perdu. La situation devient critique. Nous sommes en janvier 1687, soit plus de 2 ans et demi après le départ, lorsqu'une dernière expédition se lance. 17 hommes partent avec La Salle, 25 personnes demeurent au fort. C'est tout ce qu'il reste des 130 individus arrivés 2 ans plus tôt. Le groupe peut compter sur l'aide des tribus autochtones qui leur fournissent nourriture et même chevaux, depuis que La Salle a compris qu'il fallait les traiter avec respect. Ce qu'il n'applique manifestement pas à ses hommes, les forçant à porter d'énormes charges alors que lui-même s'octroie un cheval pour ses seules affaires. L'abbé Cavelier, son frère, et M. Moranget, son neveu, sont, semble-t-il, tout aussi détestables que lui. Et quand Moranget s'approprie un stock de viande et un os à moelle pour lui seul, c'en est trop pour certains, déjà excédés par les poussées d'autoritarisme et les incompétences de cette maudite famille. Un complot est en train de sourdir. Le soir du 17 mars 1687, Moranget et 2 autres proches de La Salle, alors séparés du reste du groupe, sont exécutés à coups de hache par les conjurés. 2 jours plus tard, quand René Robert se rend sur les lieux, il est pris dans un guet-apens et tué d'une balle dans la tête. Les meurtriers prendront un malin plaisir à laisser son cadavre au milieu de la nature, à la merci des bêtes sauvages et insectes qui lui causèrent tant de souffrances. Le corps de René Robert, cavalier de La Salle, finit non loin d'une rivière. Mais hélas, pas celle qu'il était venu chercher.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur René Robert, cavalier de La Salle, nous sommes toujours avec celui qui le convie à sa table et que nous sommes ravis de convier à la nôtre, le comédien féru d'histoire, Bruno Solo.
Oui, Bruno Solo, vous venez donc de publier Les Visiteurs d'Histoire. Quand l'histoire de France s'invite chez moi aux éditions du Rocher d'Annecy, vous conviez 11 personnages du passé à votre table pour un dîner imaginaire. Pourquoi est-ce que vous avez invité ce René Robert Cavelier de La Salle? Il a plutôt l'air détestable, en plus c'est un loser.
Oui, c'est vrai, mais justement c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai invité. Il y a beaucoup de personnages très vertueux autour de moi, des gens comme Éloi, Alcuin, Christine de Pizan, etc. Et puis il y en a qui sont un peu plus ambigus, un peu plus équivoques, et qu'il faut autour d'un dîner. Un mec un peu baratineur, un peu hableur, c'était le cas de Cavalier de la Salle, qui est quand même, il y a quelque chose quand même dans sa démarche, le côté un peu genre Ulysse sans Ithaque, Don Quichotte sans idéal, qui m'a plu. Je le trouve assez touchant parce que c'est le premier gars qui a rêvé d'Amérique. Il s'emmerdait avec les jésuites et il s'est dit, je vais me casser aux États-Unis. Et puis au fur et à mesure de ses rencontres, il s'est dit, tiens, je pars en expédition. Il savait pas lire une carte, il savait pas regarder les étoiles pour pouvoir se guider. Finalement, il fascinait un peu Cavalier de la Salle. C'était un type très costaud, assez maquillé, assez outrageusement, etc.
Une grande gueule.
Il fascinait, mais il a aussi tellement agacé qu'il a fini avec une, comme vous le disiez très justement, Stéphane, il a fini avec une balle dans la tête dans un pauvre marécage côté d'une rivière qui s'appelait sûrement pas le Mississippi en tout cas.
Vous avez, Bruno, un point commun avec Cavalier de la Salle. La Salle, c'est votre vrai nom.
C'est pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que en fait, Cavalier de la Salle, effectivement, moi, mon vrai nom, c'est Bruno La Salle. Je ne suis absolument pas un descendant, mais je m'en sers pour le flatter à un moment en lui disant oui, je suis ton lointain cousin. Donc ça l'intrigue un peu, ce qui me permet de lui rentrer un peu dedans et de lui dire, dis donc, t'as dit pas mal de conneries dans ton existence, et ne pas oser trop me rentrer dedans à son tour. Et puis aussi parce que mon papa, lors d'un voyage à Chicago, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mon père était un ouvrier dans le bâtiment, passionné de voyage, mais qui n'avait pas tout à fait les moyens des ambitions, de l'ambition de ses voyages. Un jour, dans un motel où on était arrêté, il a ostensiblement sorti son chéquier et montré qu'il s'appelait La Salle. Ça a beaucoup plu au propriétaire de l'hôtel qui nous a offert deux nuits d'hôtel parce qu'il y a fait croire vaguement. Et je trouvais que c'était marrant.
C'était joli.
Et j'avais envie. Et en plus, en creusant après, je me suis rendu compte de cet étrange bonhomme dont d'ailleurs on a découvert il y a à peine une trentaine, quarantaine d'années, à quel point il a peut-être été un peu trop mis en avant comme des grands découvreurs, alors qu'il y en a d'autres découvreurs.
Oui, qui en fait plus. Alors, Stéphane le racontait dans le récit, René Robert Cavalier de la Salle était plutôt du genre mythomane, et vous expliquez qu'il était de même pour ceux qui, juste après sa mort, ont raconté ses aventures. Comment, justement, quand on s'intéresse à un personnage comme ça, démêler le vrai du faux? Vous me disiez en tête, vous avez travaillé avec des historiens qui menaient des recherches en
parallèle.
Bien
entendu. En fait, j'ai aussi pris des personnages en fonction de cela, parce que quand j'ai eu à choisir les 11 personnages que j'allais inviter, ça a été quasiment la partie la plus longue de la conception de ce livre, parce que j'ai conçu ce livre il y a 2 ans et demi, 3 ans, mais il fallait que je trouve des personnages suffisamment passionnants sur lesquels il y avait des nouvelles choses à raconter, ou même des choses inédites à raconter.
Tout n'a pas été.
On a un ou deux scoops d'ailleurs, notamment un sur Théophraste Renaudot et ses fils, que vous découvrirez si vous achetez le livre. Donc il y a 2-3 choses grâce aux chercheurs, et sur Cavalier de la Salle, on s'est aperçu que longtemps, c'est ses descendants qui ont participé à sa légende et qui ont, pour exploiter son nom et pour pouvoir exploiter le fait qu'il avait quand même ramassé un paquet de fourrures, qu'il avait ramassé une fortune considérable et qui a été ramené en France par les survivants de cette expédition malheureuse. Donc voilà, il fallait rétablir un peu certaines vérités. C'est ce que je m'amuse aussi de temps en temps à faire dans le livre, en les confrontant à leurs contradictions, et eux, des fois, me confrontent à ma candeur.
Mais il y a un lien dans tout ça, parce que dans votre livre, on croise évidemment plein d'autres personnages qui ne s'étaient jamais croisés. Clovis, Aliénor d'Aquitaine, Louise Michel, Georges Mandel. Comment vous avez sélectionné vos convives d'abord? Vous le disiez, il faut qu'il y ait des gens bien, des gens moins bien, parce qu'il y a énormément de figures emblématiques de notre histoire nationale. Vous dites qu'ils devaient tous résonner avec votre histoire personnelle.
Oui, à peu près, oui, à part peut-être Clovis, mais je ne pouvais pas ouvrir le livre. Il est un peu l'inconnu dans la maison, Clovis, quoi. D'ailleurs, je commence en disant ça de lui. J'aurai pas de portrait officiel de Clovis.
Non.
J'arrive pas à définir son... Les autres, je les décris avec les miniatures qu'on a pu retrouver sur eux, ou des descriptions qui ont pu être faites. Mais il fallait que j'ouvre le livre avec lui, parce qu'il est, aussi le fondateur de ce qui deviendra plus tard la France, qui était au début, sous Clovis, une sorte de conglomérat de tribus, en fait. C'était presque un chef de tribal, Clovis. Et les autres, effectivement, Éloi, par exemple, il a fondé le quartier du Marais, quartier dans lequel j'ai grandi, Marais à Paris, pardon, et dans lequel j'ai fait mes études. Alcuin, c'est le premier personnage dont mon père m'a parlé, alors que j'étais tout petit. Il m'a dit, on te parle souvent de Charlemagne, mais jette un œil sur Alcuin, parce qu'il avait lu un article dans le magazine L'Histoire, qui traînait tout le temps à la maison. Christine de Pizan, parce que mes parents, et notamment ma maman, s'intéressaient beaucoup à l'histoire du féminisme, et c'est là que j'ai découvert, il y a aussi quelques années, que Christine de Pizan était peut-être la première femme qui a commencé à parler de la place de la femme dans la société, et qui a vécu de ses écrits en 1380. Dans le monde occidental, c'est sûrement une des premières. Et puis voilà, donc après Théophraste Renaudot, parce que moi j'ai tâté un peu du journalisme de manière un peu amateur, Georges Mandel parce que j'ai failli l'interpréter, Louise Michel parce que c'était véritablement la passion de mes parents à la maison, notamment mon père, la commune et tout, et évidemment je ne pouvais pas pas parler de Louise Michel et de Jules Vallès. Tous sont un peu liés à mon histoire, et puis de temps en temps j'ai tiré des fils un petit peu artificiels pour effectivement les lier à mon histoire, parce que je savais qu'il y avait des choses marrantes à raconter sur eux, comme le personnage aussi de Chevalier Déon, parce que j'avais commencé à écrire un scénario avec un auteur sur le Chevalier Déon que j'ai jamais réussi à monter. Si le livre En marchant bien pouvait me permettre enfin de faire un truc avec Chevalier Déon.
C'est ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que dans ce livre, donc c'est un dîner que vous organisez chez vous, et il y a du coup beaucoup de dialogues. Vous discutez avec les personnages. On sent le scénariste derrière. On sent que ça pourrait déboucher sur autre chose.
C'est-à-dire que mon idée, peut-être, c'est dans quelques années de faire un seul en scène autour d'un dîner imaginaire avec ces personnages où je jouerai tous les personnages. Je me mettrai.
On n'aurait pas d'autres acteurs.
Non, parce que l'idée, ce serait justement que ça soit un peu un rêve un peu mégalomane dingue de discuter avec eux, parce que évidemment je leur fais aussi dire des choses que un historien peut pas avoir à ce point de c'est un chercheur, c'est un scientifique, un historien il peut pas avoir à ce point de l'empathie pour les personnages. Moi je suis comme Stéphane, on est des passeurs d'histoire et de temps en temps on a
et
envie d'avoir
des comédiens en plus.
Et puis je suis comédien, donc j'ai envie de jouer avec
Vous avez incarné des personnages historiques.
Oui,
je pense Mendès France évidemment. Vous avez raconté tous les grands personnages dans la guerre des trônes sur
Bien
France
sûr.
5
ouais.
Donc c'est aussi une façon.
Jouer Napoléon.
C'est aussi une façon de mettre en scène. Vous êtes, Mathieu le disait, il y a un côté scénariste, mais il y a en même temps, d'ailleurs, vous pourriez prêter vos traits à René Robert Cavelier de la Salle.
Je suis pas assez costaud,
pas assez
mais.
Costaud, il faudrait.
Je pousse la fonte un peu encore.
Vous êtes du genre, il a réussi à entourlouper Louis XIV et il faut bien un mec dans votre genre pour ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Stéphane? J'ai un côté un peu volubile qui pourrait peut-être un peu marcher, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai voulu vraiment lier ces personnages un petit peu à mon histoire personnelle. Michel L'Hospital, c'est marrant parce que je l'ai vu quand je me suis installé à Meudon. Il y a une rue qui me permet d'atteindre Paris, qui est la rue Michel L'Hospital. Quand je vais à l'Assemblée nationale pour tourner, au Sénat pour tourner régulièrement ma série sur France 5, on passe souvent là-bas parce qu'il y a évidemment la maison de Richelieu, et il y a devant l'Assemblée nationale la statue de Michel L'Hospital. Et quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, il y a le grand tableau de Michel L'Hospital qui semble me regarder.
Il vous regarde, Bruno.
C'est pour ça que le livre, j'ai voulu le ramener un peu à moi. Faire un livre un peu égocentrique où je me dis, tous ces gens-là sont mes invités parce qu'ils m'aiment bien.
Vous dites
que
une chose aussi. Simple, c'est qu'on a tous un lien familier avec l'histoire.
Ouais,
c'est ça qui est important, c'est une vérité commune. Alors, vous restez avec nous, cher Bruno Solo. On va parler d'un autre personnage avec qui vous avez dîné aussi.
Décidément.
Ici, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, vous le savez Bruno Solo, parce que vous êtes déjà venu l'an dernier, elle nous raconte des histoires qu'elle va chercher loin, très loin, très loin. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bon, là, aujourd'hui, Clémentine, elle est allée un peu moins loin.
Oui, c'est ce que j'avais dit.
Dans votre livre. Bien joué.
Christine de Pizan, la première femme de lettres de l'histoire de France.
Bah oui, je me suis pas trop cassé la nénette, hein, la binette, comme on disait sous Louis XIV, et je suis allée faire mon marché dans le super livre de Bruno Solo. Et bon, comme il y a que trois femmes sur la tablée, hein, bah je me suis emparée de l'une d'entre elles.
Il y a Chevalier Déon qui a été
Vous avez raison. Ah voilà. Là, mais oui, c'est ça. C'est en vrai, fait, démagogie. Tu n'as
non,
pas.
Parce qu'il est passionnant. Oui, il a vécu autant de temps dans la peau d'un homme que d'une femme.
Donc, il y a tous les genres dans ce bouquin. C'est merveilleux. Mmh. Moi, j'ai choisi Christine de Pizan. Vous savez que dès le XIIe siècle, Azélaïs de Porquerargues, Marie de Ventadour, Clara d'Anduze ou même Marie de France au XIIe, hein, c'était déjà enhardi à écrire avec l'aide de troubadours. Mmh. Mais Christine de Pizan, invitée à la table imaginaire de Bruno Solo, fut deux siècles après ses pionnières la toute première femme à vivre de sa plume. C'est un personnage majeur de l'histoire de la littérature française. Alors Bruno Solo, il l'accueille chez elle, il la décrit en ces termes: vêtue d'une longue et sobre robe bleue, coiffée d'une cornette à deux pointes, lui donnant une touche glamour très fin 14e, bon, faut voir. Alors elle est née, Christine de Pizan, à Venise, en 1364 ou 65, d'après Régine Pernoud, c'est jamais très très sûr, sur les personnages un petit peu de second ordre, au moins au moment de leur naissance. Et son père est astrologue et médecin, ce qui à l'époque, l'un ne va pas sans l'autre. Et il est appelé en 1368 à la cour du roi de France, Charles V, le Sage. À Paris, il s'installe pas loin de l'hôtel Saint-Paul, dans le quartier où Bruno Solo a passé toute son enfance, c'est-à-dire le Marais, mais un peu de les champs vers la Bastille. Et donc Christine de Pizan arrive à Paris et alors que sa maman la voulait occuper de filasse, j'adore cette formule, c'est-à-dire c'est en gros sa mère veut la mettre à la couture, hein. Son père l'encourage à s'instruire. Et donc entre le libre accès à la bibliothèque royale et la fréquentation de tous les savants qui viennent à la cour de Charles V, elle baigne dès l'enfance dans un climat de grande effervescence intellectuelle. Et elle découvre les auteurs antiques, hein, comme vous et moi, elle les lit en latin, français et italien. Hein, naturellement.
Plus vous que moi. Oui.
Alors, nous dit Bruno Solo, décidément, non, Christine ne voulait pas faire tapisserie. Elle avait soif de voyage, de lecture et de connaissances. Et par bonheur, son père se montre aussi très clairvoyant dans le choix de son époux. Ça. En lui désignant un certain Étienne Chastel ou Castel, notaire du roi. Il a 10 ans de plus qu'elle, mais leur union en 1379, alors que Christine n'a que 15 ans, est un vrai mariage d'amour. Et là encore, pour l'époque, c'est quand même assez exceptionnel. À suite, une période sombre, car Charles V meurt en 1380, donc c'en est fini de ses largesses. Et puis en quelques années, Christine perd son père, son époux, en 1389, qui est emporté par la peste à 34 ans. Et la voici à 25 ans, veuve sans un copec, ayant à sa charge sa mère, ses trois enfants et ses deux frères. 13 années terribles pendant lesquelles elle va quand même continuer à étudier et parfaire sa culture. Et puis, c'est ce livre des 100 balades qui va avoir un certain succès et lui attirer l'attention de riches protecteurs et lui permettre de vivre de sa plume. Et là, alors là, il va y avoir entre 1402-1413, elle élabore toute une œuvre de sciences morales et politiques avec une biographie du roi Charles V, un vrai traité politique où elle aborde des sujets militaires et religieux. Aujourd'hui, on dirait elle ne s'interdit aucun sujet. C'est ça, la modernité, le culot, l'audace de cette femme est extraordinaire. Au cœur de son œuvre, la question de l'honneur des femmes. Dans La Cité des Dames, qui est l'histoire d'une cité imaginaire gouvernée par des femmes, elle dénonce la misogynie de l'époque, l'inégalité des sexes. Elle donne une image positive du corps de la femme, regrettant qu'il ne soit associé qu'au péché ou à la maternité. Elle prône l'étude pour les femmes, elle vante les joies de l'indépendance. Et c'est ce qui fait qu'elle est considérée de nos jours comme l'ancêtre du féminisme. Et ce qu'est peut-être le dernier bonheur de sa vie, ça sera la publication du Ditier de Jeanne d'Arc, c'est son dernier ouvrage. Et c'est un écrit militant où éclate sa joie de voir que la France s'apprête à être sauvée par une jeune pucelle. Mourir pour Christine de Pizan en ayant vu ça, ça a dû être vraiment une forme d'apothéose.
Et elle est morte avant que Jeanne d'Arc soit bûchée, deux ans avant.
Heureusement,
donc,
heureusement,
non, c'est merveilleux qu'elle soit partie avec cette idée-là et qu'elle n'ait pas vu effectivement la
trahison. Qu'elle n'ait pas vu la fin.
Voilà.
En tout cas, son nom a complètement sombré dans l'oubli ensuite.
Ben oui.
Et on pensait que cette œuvre était dédiée, était due à l'italien Boccace. Comment pouvait-on imaginer qu'une simple femme pût écrire en plein XIVe siècle? Et il faut attendre 1786 pour que le nom de Christine de Pizan réapparaisse dans une anthologie des écrivaines françaises. Son auteur, une femme, bien sûr, pouvait-il en être autrement, mais pas n'importe laquelle. Une certaine Louise de Keralio, fondatrice en août 1789 du journal d'État et du Citoyen, et à ce titre, première rédactrice en chef de l'Histoire de France.
Ouais, c'est bien, la boucle est magnifiquement bouclée.
Oui. Merci beaucoup.
Merci Clémentine.
Merci. Bruno, comment vous aviez découvert Christine? Par votre mère?
Oui, en fait, par mes parents qui, je me souviens qu'elle avait été évoquée lorsque mon père, qui était sympathisant du mouvement féministe, et ma maman un peu militante aussi, là-dessus. Moi, j'ai grandi dans une famille un peu comme ça, hein, dans les années 70, voilà. Ça vivait en communauté, très libertaire, beaucoup libre-penseurs. Donc, c'est des sujets, évidemment, qui étaient abordés. Et je me souviens, encore une fois, pardon de le dire, je fais une pub formidable pour ce magazine, mais le magazine L'Histoire, L'Histoire, qui est
pour moi, qui était véritablement une sorte de référence absolue. Il y avait un article, tout un truc sur le Moyen-Âge, et à un moment était évoquée Christine de Pizan, et je me souviens, ma maman avait été fascinée par ce personnage, et ça m'est revenu le jour où il a fallu que je me dise, il faut que je choisisse aussi les femmes, comme ça, comme Aliénor d'Aquitaine, qui est l'invitée juste précédente, et voilà, et Christine de Pizan, c'est mon chapitre préféré, parce que c'est celui le plus émouvant, parce qu'elle me fait prendre conscience aussi de la voix des volumes, comme je le dis, c'est-à-dire, est-ce que, de quoi parlent les livres lorsque qu'on ne les ouvre pas, eh bien on entend leurs textes secrets, et elle parlait aussi de cela parce que elle a presque inventé le livre de poche aussi, parce que elle a fait des toutes petites gravures, des tout petits livres, des livres de voyage, alors que Alcuin, lui, il travaillait que sur des grimoires qui lui pesaient un âne mort et qui avait la taille d'une table basse. Elle, et d'ailleurs on voit, moi, Alcuin, il est fasciné par ses petits livres. Elle a conçu avec des imprimeurs, avec des ouvriers qui travaillaient avec elle et pour elle, elle a conçu des petits livres, et donc vraiment, elle voulait que la littérature soit à la portée de chacun et surtout de chacune.
Oui. À quand un lycée Christine de Pizan ?
Ça serait bien, Stéphane.
Lire le magazine L'Histoire plutôt que Télé 7 jours, vous voyez ça.
Excusez-moi, je crois que je dois avoir une des collections complètes de tout le
monde. Je me doute bien, Stéphane.
Moi, j'ai une collection complète des historiens. J'en ai acheté 600.
Plus facile de se balader avec parce que plus petit, mais d'histoire.
Il ne suffit pas d'avoir les abonnements, il faut avoir les bonnes réponses. Le quiz arrive, un quiz particulier. Aujourd'hui, mais extrêmement particulier.
Je vous propose de répondre à ma place.
Non. N'essayez pas de me piéger. Moi, j'ai un quiz à la fin de l'émission aussi, Stéphane. Oui, vous me ridiculisez chaque jour. Dans l'autre quiz, pour l'instant, c'est le quiz Born to be Alive.
Historiquement vôtre.
Alors, c'est un sale coup qui m'est fait aujourd'hui où, exceptionnellement, j'ai appris que j'étais démis de mes fonctions. Le temps du quiz, c'est notre invité, Bruno Solo, qui va poser les questions. Quand je lui ai dit que j'avais la désagréable impression d'être l'arroseur arrosé, il m'a rétorqué assez sèchement.
Bah ouais, mais enfin, fallait pas faire un métier de pute.
C'est pas faux. Jour à Born to be Alive.
Qu'est-ce que j'ai dit ça? Ah oui, ça c'est un truc piqué dans les caméras cafés.
Oui.
Ah oui, je peux pas avoir dit ça sur un plateau.
Non, jamais de la vie.
Non.
Alors, Bruno, le quiz est entre vos mains, Bruno.
Oui.
Je vous laisse
procéder. Je suis ravi. Question 1. Adressé à Stéphane
Bern.
C'est
Bern. Pas du tout à l'ancienne, tu vois.
Attention.
Là, ça rigole plus. Hein.
Moi, c'est j'ai fait de la radio dans les années 90. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui nous écoutaient. Alors, attention. Une question sur Louise Michel. Âgée d'à peine 20 ans, elle fait parvenir à son idole, Victor Hugo, quelques vers. À sa grande surprise, ce dernier va lui répondre. Et ils vont ainsi correspondre jusqu'à la disparition de l'écrivain. Victor Hugo va même lui dédier un poème appelé « La Vierge Rouge », qui sera un des surnoms de la célèbre communarde. Vrai, Stéphane, ou faux?
Alors, Victor Hugo était passionné par Louise Michel. Il l'a aidé, il l'a soutenu, il a tout fait pour qu'elle ne soit pas embêtée, qu'elle sorte de ses tracas quand elle a été condamnée, etc.
Clémenceau et lui.
Ouais, vraiment, il a été, je crois... Il lui a plutôt écrit, il a écrit un manifeste pour Louise Michel.
Vous avez raison.
Mais il ne l'a pas appelé la Vierge Rouge.
Non.
Vous avez gagné.
Oui. Bravo, très bonne réflexion. Effectivement, le poème qu'il a écrit, je l'évoque d'ailleurs dans le livre, c'est Vira Major, ce qui signifie plus grande qu'un homme. Ouais. Et alors ça, moi, j'en parle pas de la Vierge Rouge trop dans le livre parce que c'est assez ambigu. La Vierge Rouge, ça a plutôt été donné par des gens qu'il n'aimait pas beaucoup parce que l'a ramené à son statut de vierge.
Victor Hugo l'a surnommé Enjolras, du nom d'un de ses personnages.
Exactement. Et Vierge Rouge, c'est plutôt ses opposants qui l'ont appelé comme ça. Rouge, bon, on comprend pourquoi, parce qu'elle était, voilà, elle était une communarde et tout, et puis c'était une femme qui allait au combat, et le côté l'a ramené à sa statue de vierge alors qu'on attendait d'une femme qu'elle fasse des enfants et qu'elle ferme sa gueule, quoi. En gros, c'était pas très chic, donc moi je l'évoque pas trop, le fait qu'elle ait été appelée Vierge Rouge, et effectivement Victor Hugo l'a respecté trop pour l'appeler comme ça.
Oui.
Bravo,
bonne déduction, Stéphane.
C'est de la déduction. Un homme fort. Brillant,
il
intelligent
fort,
oui, il est très fort. Il est très fort. Maintenant,
Clémentine.
C'est pour Clémentine. Une question sur Théophraste Renaudot, Clémentine, le fondateur du premier journal hexagonal, La Gazette, un journal qui fut publié de 1631 à 1915. Le jour de la prise de la Bastille, le journal a titré « Insurrection », mais dans l'affolement, ils ont oublié un R. Vrai ou faux?
Quelle différence aurait fait insurrection
Ça aurait fait une faute.
Oui, une faute dans
l'impression.
Une coquille.
Une faute d'une coquille.
Il faisait tout seul en plus, Théophraste Renaudot.
On compose tout à la main, lettre par lettre, dans les gazettes, ce qui est très très laborieux. Donc les coquilles devaient être nombreuses. Donc je répondrais oui, volontiers, à cette question. Oui.
Vous avez perdu.
Trop de précipitation, je lui dis tout le temps, Bruno, elle se précipite comme ça.
Non, mais en même temps,
ça.
Vous savez quoi, cette question, elle était indigente.
Merci,
moi,
merci
je vous le dis, parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur Théophrase Cornolot, et là, qu'il y a une faute d'orthographe, on pouvait l'envisager, parce que c'était l'imprimerie existait, évidemment, l'impression de l'imprimerie existait depuis quand même 200 ans, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de fautes.
Les textes sont composés de lettres par lettres.
Mais en revanche, ce jour-là, la Gazette n'en a pas parlé, surtout.
Ah, c'est ça.
Voilà, c'était ça qui aurait été plus intéressant.
En tout cas, ça fait 1-0 pour Stéphane.
Ce jour-là, la Gazette n'en a pas parlé, tout comme les événements de la Révolution. Le journal s'appelait La Gazette, avec sous-titre « Organe officiel du gouvernement royal ». C'était un journal de thuriféraire pour Richelieu, quand même. C'était un grand philanthrope, mais quand ça l'arrangeait, Théophrase Renaudot, il y avait des petites compromissions avec le pouvoir. Mais il est fascinant aussi pour ça. Voilà. Question 3 pour Stéphane. Une question sur Georges Mandel, figure importante de la Résistance. Ministre de l'Intérieur, en 1940, il fait arrêter plusieurs rédacteurs de « Je suis partout », l'infâme journal antisémite qui deviendra, sous l'occupation nazie, collaborationniste. À la direction de cette parution, il y a eu Robert de Noël, fondateur des éditions de Noël. Vrai ou faux?
Il y avait tous ces pourris, là. Mais... Ça, au contraire, je crois pas que la famille de Noël. Non, au contraire. D'abord, j'aurais jamais été édité.
Jamais.
Voilà. Non, je dirais non, c'est faux.
Vous avez gagné.
C'est faux. Mais attention quand même. Attention. Certes, de Noël, Robert, donc Bernard Grasset et Gaston Gallimard ont fait preuve d'une certaine amabilité envers l'occupant allemand. De là à dire que c'était des collaborationnistes comme Brasillac ou Drieux-La Rochelle l'ont été. Non, ça c'est clair. Ou Céline qui l'a été de manière indirecte. À la tête de Je suis partout et jusqu'au bout, il y a en revanche Pierre-Antoine Cousteau, le frère du commandant Cousteau,
qui est
intervenu auprès du général de Gaulle, le commandant Cousteau, pour qu'il puisse s'en sortir à bon compte.
Ah, c'est pas joli, joli, ça. Hein.
Ah, on protège la famille, des fois, oui. Est-ce qu'on a raison de protéger la famille envers et contre tout? C'est un vrai débat qui s'installe. Mais de Noël n'était pas directement impliqué.
Donc c'est une bonne réponse de Stéphane.
Tout à fait, ça fait deux.
Bon, bah, je suis cuite.
Non, Clémentine,
tout est possible.
Celle-ci, vous allez l'avoir, j'en suis sûr.
D'habitude, vous êtes cru. Là, pour une fois, vous êtes cuite.
Ah oui, d'accord. Ah, mais donc, je ne savais pas qu'il y avait un jeu de mots derrière et j'ai anticipé.
J'y vais, Bruno, je te laisse finir le quiz. je me désolidarise.
Courage.
Ah non, c'était très bon.
Ah, t'es excellent.
Vous êtes cru. Non, franchement, reconnaissons. Une question sur Clovis. Clémentine. On peut dire qu'il a fait à Soissons, avec Clotilde, un mariage hypergamique. Hypergamique, c'est avec une personne de rang social plus élevé. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai, parce qu'elle était une princesse wisigothe, me semble-t-il, et dont la famille était arianiste, c'est-à-dire déjà convertie au christianisme. Et il a fait en effet un riche mariage d'amour en l'épousant.
Vous avez gagné.
Ah, j'adore ce jingle. Vous
alors
avez
moi,
gagné,
je dire,
mais
c'est
ça ne sert à
rien. La clémentine cuite, c'est pas bon, de toute façon. La clémentine, ça se mange cru. Ouais. Et là, bravo,
Donc,
loin d'être cuite. Car effectivement, Clotilde, en deuxième note, était la fille du roi des Burgondes. Cela concrétise un pacte de non-agression et hisse les Francs au premier plan des grandes puissances. Donc effectivement.
Dans votre bouquin, j'ai aussi trouvé un truc qui m'a fasciné. C'est le nom de ce Burgonde qui vient de Suisse, là, c'est chez vous, ça, Mathieu, et qui s'appelait Godot Gisèle.
Godot Gisèle.
Je trouve ça tellement génial comme prénom.
Je suis pas persuadé que ça revienne tout de suite à la mode. D'ailleurs, je le dis dans le livre, Godot Gisèle. Pourquoi ce prénom étrangement disparu?
Il faut que quelqu'un dans le livre. Il faut que quelqu'un se dévoue.
Bon, en tout cas, vous
c'est une victoire. Oui, Stéphane, vous avez gagné. Vous voulez annoncer votre victoire?
Non, c'est pas ça.
C'est comme Napoléon qui se sacre lui-même.
Par hasard,
quand
c'est quelqu'un d'autre qui présente le quiz, je gagne. Je ne fais pas de lien de cause à effet. Mais quand c'est vous, ça, je sais pas, il y a toujours un truc qui cloche.
Ouais, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. On remercie notre invité exceptionnel, présentateur du quiz, Bruno Solo.
Il faut lire son livre.
Ouais, son livre, donc évidemment, Les visiteurs d'histoire, quand l'histoire de France s'invite chez moi, chez lui, chez Bruno Solo, c'est plus intéressant que chez moi, paru aux éditions du Rocher.
Non, chez vous tous, c'est vraiment laisser ces gens rentrer chez vous. Ils sont tellement passionnants qu'il n'y a plus qu'à se laisser porter.
À l'issue de ce livre qui est foisonnant d'anecdotes, qui est aussi d'une grande rigueur historique, vous avez travaillé avec des historiens, il y a quand même une question qu'on se pose, est-ce que vous leur avez cuisiné des gambas?
C'est invraisemblable. Cet humour de crevette.
C'est vrai, Bruno Solo sur Internet, vous verrez de quoi je parle.
Il fallait un plat un petit peu consensuel pour réunir tous ces invités.
Si j'ai invité les morts, c'était pas pour faire la bouffe et la vaisselle. C'est quand même la première motivation.
Merci d'avoir été avec nous, Bruno.
Oui, c'est super. Merci, Bruno.
Merci, les amis.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vaud, l'émission qui chaque après-midi réconcilie vos neurones et vos zygomatiques.
Ils étaient fâchés.
Bon, Mathieu, vous sortez, hein. Vous partez un jour et là, sans retour.
Effacer notre amour ? Ah, ça, je ne pourrais pas, Stéphane, ça serait trop douloureux.
Et pourtant, nos personnages du jour sont bel et bien partis un jour sans retour. Après René Robert Cavalier de La Salle, je vous raconte l'histoire de Percy Fawcett, un cartographe parti explorer l'Amazonie à la recherche d'une cité perdue dans laquelle il pensait trouver des traces de vie, de civilisation avancée. Bon, il y a malheureusement trouvé la mort, vous verrez.
C'est ballot.
Quant à vous, Mathieu, vous êtes le mélomane de cette émission, puisqu'on vous a confié un sujet à la mesure de votre compétence, les To Be Free.
Et je vous remercie de votre confiance, Stéphane. C'est vrai que sortir premier prix de piano du Conservatoire de Genève pour finir hagiographe des To Be Free, c'est une trajectoire de carrière étonnante. Mais j'essaierai, comme d'habitude, de vous divertir tout en retraçant le parcours drôle d'abord, moins drôle dans un second temps, puisqu'il y en a un qui est mort, des To Be Free, le premier boys band français.
Eux aussi, ils auraient pu former un beau boys band.
Les To Be Two.
Bah, David Cassel-Lopez qui nous raconte les origines d'une invention, les Stan Smith.
Tout à fait, les Stan Smith, c'est la tennis la plus célèbre du monde. On ne dit plus tennis maintenant, on dit basket
non,
d'ailleurs.
Non, on ne dit plus du tout tennis. Ouais,
mais c'était tennis, mais c'était blanche avec un truc vert derrière.
Exactement, avec du fer, elles le sont toujours.
Oui. Et puis Olivier Pouls qui remonte aux origines d'un plat, d'une recette.
Ouais, je vais vous parler d'un délicieux plat bistrotier, on peut dire ça comme ça. C'est l'aile de raie à la grenobloise.
Désolé Olivier, mais dans quel bistrot vous pouvez manger ces ailes de raie?
Dans de très bons bistrots.
Très bons bistrots.
Alors comment vous expliquer que moi qui vais souvent dans des bistrots, je n'ai jamais vu ça.
Parce que vous regardez pas autre chose, voilà, ou regardez autre chose dans la carte.
Ouais. Vous prenez systématiquement le steak tartare.
J'ai l'impression d'être victime d'un canular avec cette histoire des raies, là. Enfin, les temps n'étant plus aux beaux gosses imberbes qui chantent en playback comme les To Be Free, mais aux plus ou moins beaux gosses barbus qui déchantent en direct, nous jouerons à la lutte finale, notre quiz fratricide. Ce sera en toute fin d'émission, comme d'habitude. Mais tout de suite, on retrouve notre deuxième personnage.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
C'est un aventurier parti en quête d'une cité perdue.
Bucarest.
Non Stéphane, beaucoup, beaucoup plus loin. En Amazonie, une forêt où il pensait trouver un signe de vie, une véritable civilisation, il y a trouvé la mort. Stéphane Bern nous raconte Percy Fawcett, le cartographe qui ne faisait pas forcément fausse route.
L'histoire de Percy Fawcett est de celles qui ont forgé l'image d'Épinal de l'aventurier. Celle d'un homme courageux, exalté, passionné par la poursuite de ses rêves. Son prénom complet, Percival, semblait d'ailleurs le destiner à une vie de quête, comme son homonyme chevalier de la Table Ronde lancé à la recherche du Saint Graal. Le Graal de Percy Fawcett, c'est une cité. Une cité perdue, qu'il est parti chercher au fond de la jungle amazonienne, mais il ne cherchait pas seulement des ruines à étudier et des connaissances à compiler. Il courait après une illusion portée par la volonté de trouver en Amazonie la source unique de toutes les civilisations. Oui, rien de moins. Mais avant d'en arriver là, Percy Fawcett, né en 1867 dans la bourgeoisie anglaise, embrasse une carrière militaire et devient un fringant officier de l'armée britannique affecté dès ses 19 ans à Ceylan, l'actuel Sri Lanka. Une première rencontre avec un ailleurs lointain. Après avoir travaillé pour les services secrets à Malte et en Afrique du Nord, où il acquiert des compétences en arpentage et topographie, il rentre en Angleterre et fonde une famille. Mais en 1906, la vie de Percy Fawcett va changer. La Société Royale de Géographie, dont son père était l'un des membres, lui propose une mission au bout du monde, celle de cartographier une partie de l'Amazonie pour délimiter de manière impartiale le tracé de la frontière entre la Bolivie et le Brésil, qui se disputent évidemment les richesses de la forêt. Il laisse donc femme et enfant et part à l'aventure. Et cela lui plaît, ce grand voyage ne sera donc pas le dernier. Entre 1906 et 1925, Percy Fawcett ne cesse de toujours repartir au point qu'il finira par ne jamais revenir. Au-delà de sa mission de cartographie, la forêt le fascine, tout comme les tribus autochtones qu'il traite avec beaucoup d'égard, contrairement à beaucoup de ses contemporains. Petit à petit, une obsession se forge en lui, celle de prouver l'existence d'une civilisation d'un haut degré de développement qui aurait peuplé l'Amazonie par le passé, bien loin des tribus éparses de chasseurs-cueilleurs qui sont celles de l'époque. C'est la cité perdue qu'il s'est mis en tête de trouver. Mais alors, qu'est-ce qui lui fait croire à l'existence de cette cité qu'il baptise Z sur ses cartes ? D'abord, le récit de l'expédition du conquistador Orellana en 1542, la première à descendre le cours de l'Amazone, qui parle d'immenses villages souvent fortifiés, de canaux, de routes, de communautés nombreuses partout le long du fleuve, qui attestent d'une Amazonie qui n'est pas vierge, mais habitée et même densément peuplée. Au fil de ses recherches, Fawcett découvre dans les archives de Rio un manuscrit anonyme relatant une expédition du XVIIe siècle qui aurait découvert les restes d'une immense cité de pierre dans la jungle, de quoi attiser sa curiosité et préciser son but. Sur le terrain, il trouve des tessons de poterie, preuve à ses yeux d'établissements humains anciens. Fawcett voit en de nombreux artefacts la preuve du niveau d'avancement des civilisations amazoniennes d'antan en lien avec l'Antiquité. Comme une idole de pierre qui laisse pantois les plus grands spécialistes du British Museum ou d'autres objets votifs utilisés par les Indiens dans lesquels Fawcett voit des réminiscences de l'Égypte ancienne. Pour lui, les signes sont partout. De plus, les Indiens évoquent parfois des ruines, toujours ailleurs, toujours plus loin, de préférence sur les terres d'autres tribus. Fawcett assure même avoir rencontré des Indiens blancs, roux aux yeux bleus, signe d'un lien avec les Européens. Car selon lui, cette civilisation serait à l'origine de toutes les autres, des Égyptiens aux Grecs, et la cité perdue de Z serait une porte ouverte sur une autre cité perdue, l'Atlantide. Il faut dire que Percy Fawcett baigne dans une spiritualité singulière, parfois ésotérique. Ses années au Sri Lanka lui ont déjà ouvert l'esprit à des religions différentes. Son frère Edward, basé en Inde, est un membre actif de la Société théosophique qui prône une philosophie syncrétique aux frontières de l'occultisme, très en vogue à l'époque et dont Percy admet qu'elle l'intéresse. Il n'hésite pas à s'adonner à quelques séances de spiritisme, à consulter des voyants, tout comme son épouse, fervente adepte de ses pratiques. Fawcett s'intéresse beaucoup aux rites des Indiens, à une spiritualité globale, transcendante, à une autre façon de voir et de sentir le monde. Tout ceci donne à sa quête une approche toute personnelle. Il raconte dans une lettre que la forêt lui parle, que la cité de Z lui parle. S'il l'entend, c'est bien la preuve qu'elle existe. En 1925, Percy Fawcett pense que sa 8e expédition sera la bonne. Accompagné de son fils aîné, Jack, et de Riley Rimmel, un ami de Jack, il quitte Rio en mars pour s'enfoncer dans la région du Mato Grosso. La mission est suivie par la presse européenne qui publie des comptes rendus. Le 20 mai, Fawcett écrit « Notre expédition vient d'atteindre la dernière frontière du gouvernement régulier et se prépare à affronter la jungle. » Quelques jours plus tard, il annonce « Nos communications avec l'arrière sont déjà si précaires que lorsque ces mots pourront être imprimés, nous aurons depuis longtemps disparu dans l'inconnu. » Il ne croyait pas si bien dire. À ce moment, Raleigh Rimmel est blessé. Il boite, mais ne veut pas retourner en arrière. Fawcett sent que les deux guides indiens qui les accompagnent sont sur le point de les abandonner. Mais une lettre à son épouse datée du 29 mai 1925 s'achève par ces mots « Tu n'as aucune raison de croire à un échec. » Pourtant, après cela, plus rien. Son épouse et ses soutiens mettent du temps avant de s'inquiéter. Il était prévu que les nouvelles n'arrivent plus, mais à partir de 1927, il faut se rendre à l'évidence. Ils ont disparu. Une expédition se lance sur leurs traces, mais ne parvient ni à les trouver, ni même à attester de leur mort. De nombreuses missions sont lancées pour percer le mystère. Aucune n'y parviendra, mais une centaine d'hommes mourront d'avoir essayé. Fawcett avait pourtant prévenu avant son départ. Si nous ne revenons pas, je ne veux pas que des expéditions de secours partent à notre recherche, c'est trop risqué. Il avait vu juste. Porté par une quête qui nous paraît folle, Percy Fawcett n'en avait pas moins de bonnes intuitions. Si l'Amazonie a longtemps été perçue comme une terre quasi vierge, peuplée de quelques groupes demeurant à l'état de nature, la recherche récente a mis en évidence des peuplements importants, nombreux et anciens. L'existence de réseaux de communication et d'échanges, d'une appropriation et d'une modification du paysage, de la nature, d'une forme d'agriculture, en somme, d'une civilisation. Percy Fawcett avait alors peut-être raison.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors pour essayer de mieux comprendre ce Percy Fawcett, nous sommes avec l'historien qui en fait un des aventuriers excentriques de son dernier livre. Bonjour Michel de Grèce.
Bonjour.
Bonjour Michel de Grèce. Dans votre nouveau livre, Mes aventuriers excentriques, paru chez Stock, vous nous emmenez à la rencontre de figures historiques que vous chérissez, dont celle de Percy Fawcett. Vous racontez qu'entre vous et cet explorateur obstiné, tout est parti d'une tête réduite exposée dans un cabinet de curiosité. Racontez-nous cela.
C'était au château de E, en Normandie. qui appartenait à ma tante, la comtesse de Paris, Isabelle d'Orléans-Bragance. Elle venait du Brésil et ses ancêtres avaient ramené plein de souvenirs du Brésil qui ornaient un cabinet du rez-de-chaussée. Et dedans, il y avait une tête réduite, Jivaro. Vous savez que les Indiens réduisaient les têtes de leurs ennemis pour en faire des ornements ou des... Voilà, bon. Et cette tête avait la particularité de crier toutes les nuits. Bon, nous étions au premier étage, au salon, en train de jouer ou je sais pas quoi, et on entendait des gémissements épouvantables qui venaient du rez-de-chaussée. Nous nous précipitions, mes cousins et moi. On arrivait devant la porte, on ouvrait. Silence, obscurité. Et on repartait, ça recommence. Bon, un jour, ma tante m'a dit « Est-ce que tu as remarqué la couleur des cheveux de la tête ?» Je dis « Non, va voir. » Il n'était pas brun, sombre ou noir comme les cheveux des Indiens, mais blond roux. Elle me dit « C'est évident que c'est un Européen. » Il avait même un peu de moustache, je me rappelle très bien. Et ma tante m'a dit « La légende dit que ça pourrait être la tête de Fawcett. » Et je lui ai dit, mais qui est Fawcett? Du coup, je me suis intéressé à Fawcett, d'où mon histoire.
On comprend pourquoi.
Alors,
vous êtes intéressé.
Je vous ai dit, la tête, si je puis me permettre, s'il a disparu en 25, la tête, à mon avis, si elle est dans la, elle était arrivée du Brésil avec la famille impériale, à mon avis, c'était une tête plus ancienne.
Oui, évidemment. Évidemment. Ce n'est pas eux qui ont réduit une tête. Ce n'est pas ma pauvre tante qui a réduit une tête.
Donc vous êtes passionné pour la vie de Percy Fawcett.
Juste une question sur Fawcett, sur sa quête. Il cherchait en Amazonie les vestiges d'une civilisation perdue très avancée. Est-ce que, tout comme lui, vous croyez que les débuts de la civilisation sont bien plus anciens qu'on ne le pense?
Alors, d'abord, j'en suis persuadé, mais vous savez, il ne s'est pas basé sur des manuscrits. Il est allé en Amazonie, et c'est par les Indiens d'Amazonie qu'il a entendu parler de ça. Toutes les tribus qu'il visitait lui disaient « Bien avant nous, il y avait de grandes villes, des temples immenses et tout. » Et les Indiens d'Amazonie lui disaient « Mais ce n'est pas nous, c'était des habitants avant nous. » qui avait construit d'immenses villes et des temples. Et il est parti là-dessus. Ce qu'il faut rajouter, c'est que la science actuelle permet d'approcher de la vérité. D'abord, il y a des nouveaux systèmes qui permettent d'un hélicoptère de voir à travers les arbres. Et donc, on a découvert, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait des routes très droites et d'immenses murs carrés qui formaient comme des remparts d'une ville. Et puis, on a découvert à la frontière de la Colombie, il y a assez peu de temps, 10 kilomètres de peinture rupestre sur des falaises qui illustrent des animaux et des plantes qui n'existent plus en Amazonie, mais qui prouvent que l'Amazonie était habitable, qu'il y avait une agriculture millénaire, si vous voulez, là-dedans. Donc, on s'approche de la peut-être de la vérité.
Alors, on n'a jamais résolu l'énigme de la disparition de Percy Fawcett. Pour pallier cet inconnu, vous vous livrez dans votre livre une version imaginaire de sa mort.
Peut-être a-t-il découvert quelque chose. C'est une possibilité qu'il ait découvert quelque chose de très important et qu'il y soit resté.
Il aurait découvert quelque chose qui existe encore, c'est-à-dire que cette civilisation existe encore quelque part ou juste...
C'est-à-dire qu'il y a des ruines, oui. Mais bien sûr.
Et il serait resté là-bas, juste pour le plaisir.
Non, il avait atteint le but de sa vie. C'est-à-dire, c'est ce que font tous les aventuriers. Ils ne s'intéressent pas à la réalité, ils ne s'intéressent pas aux risques, ils ne s'intéressent pas aux dangers. Ils partent avec un idéal en tête et parfois ils réussissent. Alors peut-être, sans que nous le sachions, lui a réussi. C'est ce que je lui souhaite en tout cas.
Alors, comme Percy Fawcett, vous croyez aux fantômes, vous semblez en tout cas, on croise plusieurs en tournant les pages de votre livre. Vous n'avez jamais peur dans les couloirs des châteaux hantés que vous visitez, comme celui de Bernstein en Hongrie? Non, vous n'avez pas peur des fantômes?
Non, pas du tout. Je pense que, vous savez, on raconte beaucoup de légendes sur les fantômes et surtout on confond beaucoup de phénomènes étranges et qui ne sont pas du tout des fantômes. Je ne pense pas que les fantômes, il faut en avoir peur. Non, pas du tout.
Ah, vous pensez qu'ils existent en tout cas?
Oui, bien sûr.
Mais tout le monde ne le croit pas.
Vous savez, je ne crois pas que c'est un grand mystère. Si la science était plus avancée, il y aurait une explication scientifique tout à fait normale. Peut-être on y arrivera un jour. D'ailleurs, on s'y approche.
Bon, vous êtes aussi proche parent de la plupart des souverains européens actuels et dans votre livre, on rencontre certains de vos ancêtres plutôt haut en couleur. Rodolphe II, l'empereur du Saint-Empire romain germanique.
Ben, parlant de fantômes, lui était dans la sorcellerie, alors c'est très bien.
Voilà. Gustave III aussi, qui est mort au bal masqué. On a
assassiné.
Oui, assassiné. C'est au fond Vous vivez en parfaite familiarité avec tous ces personnages.
Non, je ne sais pas. Écoutez, il y en a pas mal tout de même. C'est une vaste familiarité, si vous voulez. Non, mais ce qui m'a intéressé dans mon choix, c'est que finalement, tous ces souverains, même Louis-Philippe, on ne peut pas imaginer que Louis-Philippe est un aventurier. Et pourtant, il l'est. Gustave III non plus, Rodolphe. Ce sont tous un peu des aventuriers. C'est ce que je vous disais avant. Ils sont poussés par un idéal, par une idée, par un rêve. Et ils foncent dedans sans s'occuper de rien d'autre. Ni de famille, d'ailleurs. Parce que Fausset a abandonné un peu sa femme et ses enfants.
Non, ce qu'on n'imagine pas, c'est Louis-Philippe en excentrique, pour le coup.
Vous savez, les aventuriers ne sont pas forcément excentriques. Ils poursuivent un idéal. Louis-Philippe, vous le voyez comme un gros bourgeois, pas très amusant et un peu ennuyeux. Écoutez, général révolutionnaire, explorateur du Cap Nord, il fait un enfant et la sœur d'un pasteur en Laponie, d'où nous avons 250 cousins lapons, inventoriés. Bon.
Pour Noël, c'est vrai.
Il va aux États-Unis, il devient le sorcier du village parce qu'il savait guérir. Grâce à sa gouvernante qui lui avait appris ça. Il arrive à la Nouvelle-Orléans, dont le nom, c'est le même que lui, d'ailleurs. Oui. La Nouvelle-Orléans est nommée à cause de ses ancêtres. Et là, il devient l'amant de la reine du Vaudou. Il faut le faire aussi, là. Oui. Alors ça, vous n'allez pas me dire que c'est
vos ancêtres sont excentriques.
Un gros bourgeois, voilà.
Voilà, mais merci beaucoup, Michel Degrès. Je rappelle que votre livre « Mes aventuriers excentriques » est disponible aux éditions Stock et c'est un moment de pur bonheur parce qu'on retrouve tous ces personnages haut en couleur.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on rend hommage à ces personnages historiques qui sont partis un jour sans retour. Après René Robert, Cavalier de la Salle et Percy Fawcett, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un trio qui a énormément compté dans votre construction musicale.
Vous le savez, dans cette émission, une seule personne aime encore plus parler d'elle en introduction de sa chronique que David Castello-Lopez, moi. C'est toujours un plaisir que de vous dévoiler les recoins de mon âme, et je sais que le plaisir est partagé, que vous adorez m'écouter parler de ma vie.
Mais je le fais un peu avec ennui.
Non, David, avec l'émerveillement respectueux que vous devez à votre supérieur hiérarchique. Il y a un an et demi, lorsque, avec Stéphane, nous posions les bases de ce qui serait historiquement vôtre, je lui disais « Ah, c'est génial, cette idée du troisième personnage contemporain. Peut-être qu'un jour, on pourra trouver une thématique qui me permette de faire le portrait de mon idole, le pianiste Keith Jarrett. Oui, oui, bien sûr, m'a dit Stéphane, on fera ça, t'inquiète. 276 émissions plus tard, je n'ai toujours pas eu l'occasion de faire le portrait de Keith, certainement parce que l'histoire d'un prodige du piano qui s'émancipe du classique puis du jazz pour inventer son propre lexique musical...
C'est chiant, c'est relou.
C'est exigeant, c'est différent. En revanche, en 276 émissions, j'ai eu l'occasion de vous brosser le portrait de Philippe Laville, de Tarkan, et aujourd'hui, cerise sur le gâteau de ce grand n'importe quoi qui est devenu ma vie aux côtés de vous, Stéphane Bern, les To Be Free. Soyons honnêtes, aujourd'hui, les To Be Free sont tellement oubliés que si ça se trouve, même les To Be Free eux-mêmes ne se souviennent pas avoir existé. Les To Be Free, ou plutôt les To Be Two, depuis la disparition prématurée de leur leader, Philippe Nikolic. To Be Free or Not To Be, Stéphane, la puissance shakespearienne au service de la musique, tout était beau dans le projet des To Be Free, le jeu de mots déjà, les paroles, les chemisettes à manches courtes, rien ne manquait à la panoplie d'un kitsch qui ne révélera sa véritable dimension que des années plus tard, quand collectivement, on réalisera qu'on avait vraiment un goût de chiotte dans les années 90. Premier fun fact, alors que ce groupe semble avoir été monté de toutes pièces dans l'unique but de proposer une alternative française au boys band anglais, sachez que Franck Delay, Philippe Nikolic et Adèle Cachermi étaient des amis d'enfance, tous trois originaires de Longjumeau, région parisienne. Tout commence donc sur les bancs de l'école. Franck rencontre Adèle, puis au collège, Philippe les rejoint. Il faut dire qu'il a la même passion qu'eux pour le sport et la danse. Qu'en déduisez-vous, Stéphane ?
Il était gay, c'est évident.
Non, non, ils vont devenir copains, ils ont la même passion. Améliorer... Et pour améliorer leurs entrechats, les trois gaillards prennent des cours de danse avec Lucette Almanzor, l'ex-compagne de Céline, pas Dion, l'autre, voyage au bout de la nuit. Donc je sais que c'est fou, leur vie entière est un fun fact. Avant un certain moment. Alors, donc ça danse, ça s'amuse, ça rigole, et puis un jour, Philippe fait une rencontre décisive, celle de son futur ami et avocat, François Gibault. Philippe a 18 ans, François presque 60, il voit en lui l'espoir de la gymnastique française. Or, que feriez-vous, Stéphane, si vous voyez en quelqu'un l'espoir de la gymnastique française? Évidemment, vous lui proposeriez d'emménager chez vous. C'est logique, car vous êtes généreux, sans arrière-pensée, et vous voulez absolument que la gymnastique française brille au firmament des prochains Jeux Olympiques.
Non, j'ai pas l'esprit
François,
sportif.
François, l'avocat gentil, accueille donc Philippe dans son bel appartement. Il se dit quoi, d'après vous, David?
Espérons qu'il me sucera bien.
Non, mais vous voyez le mal partout.
tout, David, non. Mais non, oh, espérons que ce garçon bourré de talent trouve son chemin dans la vie. Mais non, mais évidemment, mais c'est scandaleux. L'avocat nous explique. J'ai hébergé ce gamin de la banlieue, fils d'immigré serbe, dans un milieu très modeste. Je n'ai jamais connu de garçon si charismatique et doué. Il était intelligent et s'est tout de suite adapté à son changement de vie. Je lui ai offert un bagage culturel. Il m'a rendu ma jeunesse. Comment ? En nature, métaphoriquement, on ne sait pas. Mais vous savez quoi ? On ne veut pas savoir. Tant qu'il n'y a pas une main courante, c'est une belle histoire. Il faut dire, à la décharge de son Pygmalion, que Philippe n'était pas très cultivé quand il a débarqué à Paris. C'était un diamant brut, comme David. Souvenez-vous de ses essais. Hein, il venait d'arriver de Lisbonne. L'énergie était là, mais il ne maîtrisait pas encore notre langue.
Aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer les origines de quoi je veux faire.
Mais un diamant brut, ça ne demande qu'à être taillé. Et l'avocat pygmalien s'y emploie. Franck, Adèle et Philippe décide alors de se lancer dans la chanson. À l'époque, les adolescentes anglaises se prosternent devant les Words Apart, un boys band qui servira de modèle au To Be Free. En 96, pour parfaire leur aisance scénique, Philippe et Franck décident de participer à un concours prestigieux, le concours d'éloquence des avocats de Paris. Mais non Stéphane, c'est pour voir si vous suivez. Il participe au concours des plus beaux mannequins français dans l'émission Si on chantait, diffusée sur TF1. Tandis qu'en coulisses, pour se détendre comme nous avant l'émission, ils font un peu de breakdance, ils se font remarquer par un chorégraphe qui leur explique que la maison de disques EMI recherche un groupe de garçons musclés et sympas. Ils sont musclés, ils sont sympas, roule ma poule, Philippe gagne le concours, devient Mister France et signe dans la foulée un contrat chez EMI avec ses copains. Le premier single du groupe Partir un jour se vend à plus de 450 000 exemplaires. L'album est certifié triple disque de platine et en seulement 4 ans, ils vendent plus de 5 millions d'albums. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Nos champions se lancent en parallèle dans une carrière d'acteur. Bluffés par leur talent, Claude Sauté leur propose un rôle choral dans son prochain film.
Non,
Stéphane, effectivement, vous suivez. Ils tournent un sitcom de 40 épisodes retraçant leur début produit par AB Productions et diffusé sur TF1. 2 millions de téléspectateurs en moyenne par soir quand même, mais cela dit, tentons l'expérience. Si Claude Sauté avait réalisé un épisode de la série, ça aurait pu donner quoi ?
C'était avec Aurélie hier soir.
Bah ouais, on s'est fait un ciné, ouais.
Un ciné ? C'était bien ?
Le film, il était pas mal, ouais.
Non mais, je veux dire, après le film.
Bon, on s'est fait une pizza, je l'ai accompagnée chez elle.
Ouais, mais avant.
Quoi avant ?
Je veux dire, entre la pizza et chez elle.
C'est mon seul regret, dira Claude Sauté sur son lit de mort.
Oh non.
D'autant que 2 mois plus tard, les To Be Free partent aux États-Unis enregistrer un disque en anglais avec Stevie Wonder. Bon, non, je déconne, mais ils partent aux États-Unis quand même enregistrer un truc en anglais avec des types dont on n'a jamais entendu parler. Et à partir de là, la success story commence à s'effriter. Leur nouvelle maison de disques fait faillite. Philippe décroche un rôle en tant que comédien dans la série Navarro et perd de vue ses potes. Le groupe se sépare d'un commun accord en 2001. Et puis les langues se délient. On apprend que le manager des To Be Free aurait en pleine gloire pousser la compagne de Philippe à avorter pour préserver la carrière du groupe, c'est dégueulasse. Après l'exemplarité d'une vie saine et sportive, Philippe sombre dans l'alcool, l'herbe et les cachetons. Adèle lui tombe en dépression. « J'ai touché à tout », confie-t-il. « L'alcool, la drogue, je ne savais plus qui j'étais réellement, ni ce que je voulais faire. » Franck, lui, pète le feu. Il mène une honnête carrière d'acteur de théâtre de boulevard. Mais en 2009, c'est le drame, vous le savez. Alors que Philippe vient de se faire voler le rôle de Largo Winch par Thomas Sisley, ça je ne le savais pas, il tombe encore plus bas et meurt subitement après ce qui semble être un abus de somnifère qui aurait causé un arrêt cardiaque. Certains évoquent un suicide, sa compagne n'y croit pas. La France en tout cas est sous le choc. Philippe Nicolique restera dans nos cœurs comme cet Apollon sympa, monté trop haut, trop vite, et qui de toute évidence s'est laissé griser par le succès. Il en a fait trop, comme Olivier, depuis qu'il a été nommé chroniqueur culinaire de l'année. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Attention Olivier, votre femme m'a dit l'autre jour, même quand on fait l'amour, il en fait trop.
Je détiens la force toute puissante.
Ah oui, le succès monte décidément bien vite à la tête. Faites attention Olivier. Ouais.
Eh ben merci Mathieu, c'était... Ils sont partis sans retour là.
Ils sont partis sans retour, surtout ce pauvre Philippe. Vous l'avez connu un petit peu ?
Oui, je les ai connus tous les trois, bien sûr. Je faisais des plateaux télé à l'époque et les filles, vous pouvez pas savoir, le studio était envahi de filles qui les
adulaient.
Les adulaient.
C'était Patrick Bruel dans les années 80.
Ouais, c'était incroyable. Ils attiraient vraiment des foules.
Ce qui n'est pas le cas ici dans le studio.
Non, ben nous,
moins.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui, de toute façon, étaient déjà partis.
Pour retrouver notre boys band à nous, donc les 2B2, Olivier Pouls, vous nous parlez aujourd'hui d'un plat au sujet duquel j'émets certains doutes, mais vous me dites que c'est délicieux.
Les
ailes de raie à la grenobloise.
C'est bon.
Mais après ma chronique, vous aurez envie de vous en commander, peut-être même de les faire parce que je vais vous donner la recette qui n'est pas très compliquée.
Mais tout de suite, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines d'une basket bien connue,
la Stan Smith.
Je crois que je vous ai quand même parlé énormément de plein de trucs de mon enfance, mais je vous ai parlé encore de mon grand-père Robert. Robert, c'est le seul grand-père que j'ai connu, et c'était un super grand-père parce qu'il tenait un magasin de sport avenue de Saint-Ouen à Paris, qui s'appelait Robert Sport. Il n'est pas très loin. Et l'une des grandes gloires de Robert, c'était qu'il était un des revendeurs officiels Adidas à Paris. Alors pendant toute ma petite enfance, il m'a fait des cadeaux Adidas, des raquettes de tennis Adidas, le ballon de foot officiel Adidas de la Coupe du Monde 1990.
Ah, l'Italia 90.
Exactement.
Il coûtait ultra cher, j'ai jamais eu. J'avais une réplique pourrie.
Et ben voilà, et lui il avait le vrai. J'ai pleuré de joie le jour où il me l'a apporté. Et aussi, il m'avait offert plusieurs paires de chaussures. Alors à l'époque, ces chaussures, on appelait ça des tennis parce que c'était des chaussures pour jouer au tennis. Aujourd'hui, tout le monde appelle ça des baskets et ça m'énerve légèrement parce que c'est un appauvrissement du vocabulaire. Mais bon, c'est pas non plus hyper grave. Parmi ces tennis, il y avait les Nastas, joueur de tennis roumain, qui ensuite a fait de la politique en Roumanie. Elles étaient blanches et bleues, les Nastas. Et il y avait les Stan Smith, qui étaient et qui sont toujours blanches et vertes. Mes Stan Smith à moi, c'était une version à scratch, hein, les fameux scratch que Benoît, le camarade d'Olivier Poulsby, lui enlevait par cruauté, en fait. Mais je les aimais beaucoup, même si je savais pas, bien sûr, que 30 ans plus tard, ces Stan Smith, sans les scratch, deviendrait le comble du cool dans l'habillement et un élément obligatoire de la panoplie de tout bobo qui se respecte. Mais alors, d'où elles viennent, les Stan Smith, et comment elles sont devenues si cool? Alors, la Stan Smith, c'est une chaussure, donc, hein, je l'ai dit, conçue par Adidas. Premier petit fun fact, vous savez pourquoi Adidas s'appelle Adidas?
Oui, je l'ai su, c'est monsieur... un Allemand.
Un Allemand.
Oh, bravo, oui, c'est
totalement chleux.
Oui.
Adolf Dassler.
Voilà,
et le surnom de Adolf, c'était Adi. Et donc Adi Dassler. Voilà. Ça date de quand, à votre avis, Adidas?
Début du
20e. Pas mal du tout. 1924, vous êtes assez fort. Mais ils ont attendu Adidas les années 60 pour proposer une paire de tennis. Une paire de tennis qui était un peu révolutionnaire parce que c'était en cuir. Les paires de tennis avant étaient en toile. Le cuir, ça respire moins bien, vous savez. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a les petits trous pour qu'ils respirent à l'intérieur. Et en 1965, donc, ils ont sorti l'ancêtre de la Stan Smith, qui en fait était exactement la Stan Smith déjà, sauf qu'elle ne s'appelait pas Stan Smith, mais Robert Hayet. C'était l'Adidas Robert Hayet comme papy.
Qui est un joueur de tennis français.
Exactement. Et je me suis dit que personne le connaissait, mais c'était sans compter ce Olivier Pouls. C'était le tennisman français le plus célèbre à l'époque, même si aujourd'hui, il est à peu près 100% oublié, sauf par Olivier Pouls.
Mais il n'a pas gagné grand-chose, en fait.
Il n'a rien fait. Ça avait beau être le meilleur joueur français, c'était pas du tout le meilleur du monde. Et le mieux qu'il a fait, c'est la demi-finale de leur Roland-Garros en 1960. Et donc, c'est pas terrible. Mais bon, en France, c'est un petit peu tout ce qu'on est capable de faire en termes de tennis.
J'exagère
légèrement. Un Coupe Davis, tout ça. Et puis, Robert, il a pris sa retraite en 1969. Et Adidas, au début des années 70, s'est dit peut-être ce serait encore plus cool d'avoir un joueur américain comme sponsor. Et ils se sont tournés vers Stanley Roger Smith, plus connu sous le nom de Stan Smith. Stan Smith, à ce moment-là, c'était une star montante du tennis mondial, finaliste à Wimbledon en 1971, qui est quand même mieux que Hayet. Il a gagné l'US Open en 1971, il a gagné Wimbledon en 1972 contre Nastas, justement, hein, son concurrent aussi en termes de tennis. Et visiblement, Stan, il aimait bien tout ce qui était argent, et il a accepté de donner son nom à Adidas.
De vendre, alors.
De vendre, en échange d'argent, en 1973. Sauf que Adidas se disait que c'était pas une bonne idée de changer complètement le nom de ses tennis, et donc pendant un moment, le portrait de Stan Smith, dont vous vous souvenez qu'il était sur toutes les Stan Smith, sur la longueur des chaussures, il cohabitait avec le nom Robert Hayet.
Ça,
et donc il y avait
sens.
Robert Hayet, visage de Stan Smith. Mais en 1978, ils ont laissé tomber le nom de Robert Hayet, et la Stan Smith s'est stabilisée sur ce qu'elle est aujourd'hui. La Stan Smith, c'est un des modèles de chaussures qui a eu le plus de succès au monde. Il s'en est vendu plus de 50 millions de paires. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que ça a eu du succès en tant que chaussure de sport, mais surtout parce que petit à petit, c'est devenu une chaussure que les gens mettent tous les jours, bien sûr, surtout même quand ils font pas de sport. Et dans les années 2000, au moment où les tennis sont entrés un petit peu dans la mode chic, les Stan Smith, ça a été les reines de ce mouvement-là. À tel point qu'en 2011, Adidas a décidé de retirer les Stan Smith du marché.
Je me souviens.
Mais c'était complètement stratégique. C'était pour créer l'attente. Et c'était une excellente idée parce que quand la paire est revenue sur le marché en 2014, elle a tout défoncé. Alors, Robert Hayet, lui, il est mort.
en 2011, à 80 ans. Stan Smith, lui, il est toujours vivant et il touche de l'argent sur chaque paire de chaussures.
Le mec, il est vivant, il marche avec des Stan Smith.
Et il a même connu l'époque où il a joué au tennis contre des opposants à lui qui portaient des Stan Smith également parce que c'était des très bonnes chaussures et il s'est fait battre au tennis par des gens qui portaient des chaussures à son nom. Ça, c'est quoi?
Mais
ça,
c'est... Non, c'est pas des Stan Smith.
Ah non, c'est des Nastas.
C'est des Nastas.
Bravo. Finalement, un peu de pub comme ça. On cite d'autres marques.
Demain, je mettrai mes Stan Smith. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site Europe1.fr.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui chaque jour remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, c'est évidemment la bonne bouffe. Avec vous, Olivier Pouls, aujourd'hui vous nous parlez d'un plat étonnant, les ailes de raie à la grenobloise.
Plat que visiblement vous ne connaissez pas.
Pas du tout.
Eh bien vous passez, croyez-moi, à côté de quelque chose. Vous connaissez l'aile de raie?
Oui. Non.
Mais vous connaissez même pas l'aile de raie.
Il connaît l'île de raie, mais il ne connaît pas l'aile de raie. Mais
vous n'allez jamais chez le poissonnier.
Mais si, j'y suis allé acheter des palourdes avant-hier. Qu'est-ce que vous dites? Bon. Juste, je ne connais pas. Je vois la raie, mais je...
Alors la raie, c'est un poisson aplati et non pas un poisson plat. Il y a une petite différence. Les poissons plats, c'est la sole ou le turbo. Alors, petit fun fact, ils ne naissent pas plats, ils le deviennent au fil de leur évolution. Oh. Et la particularité, c'est qu'ils ont la bouche à côté de leurs yeux.
Oui.
Et qu'ils sont asymétriques et ils nagent de travers. Alors que la raie, qui est un poisson aplati, elle est symétrique, elle a deux yeux au sommet de sa tête, si on peut dire, et elle a la bouche en dessous. Donc
juste plate, quoi.
Voilà, quelque chose d'un peu plus conforme. Et surtout, elle a deux grandes ailes. Hmm. Et ce sont uniquement ces ailes qui sont comestibles. Elle ne contient pas d'arêtes, mais du cartilage, la rapproche des requins. Donc c'est un petit peu... Voilà,
il n'y a qu'un des deux côtés de l'aile qui est bonne à manger.
Non, on mange les deux ailes. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la peau au-dessus et la peau en dessous n'est pas la même. Elle n'a pas d'écailles. Sur le dessus, c'est une peau qui est brune et sur le dessous, c'est une peau qui est blanche avec un côté un peu plus gélatineux.
Voilà.
Mais moi, j'aime bien. Et donc, si vous allez chez votre poissonnier, vous allez avoir... Non pas une raie entière, parce qu'une fois encore, il n'y a que l'aile qui se mange, mais des morceaux d'aile de raie que vous allez pouvoir préparer. Préparer comment? À la grenobloise, par exemple. Alors, pourquoi la grenobloise? Alors que Grenoble, franchement, c'est très loin de la mer.
C'est très loin.
Eh bien, justement, parce que à l'époque où les camions frigo n'existaient pas, où les transports étaient un petit peu lents, quand l'aile de raie arrivait à Grenoble, elle était plus toujours de très grande fraîcheur. Et donc, il fallut lui organiser une petite sauce, ou un condiment pour masquer, entre guillemets, le goût du poisson pas trop frais. Et notamment, on utilisait à cette époque-là des câpres, dont le goût est quand même assez puissant. Personnellement, j'adore, et je vous parlerai l'histoire des câpres dans quelques jours. Et les câpres, avec du citron et du beurre, masquaient le goût de la raie.
C'est bien ce que je dis, on est quand même sur un truc qui est dégueulasse et on fout du citron dessus pour masquer le goût.
Pas du tout, parce qu'aujourd'hui...
Mais maintenant, à Grenoble, elle est fraîche, hein,
la raie est parfaitement fraîche à Grenoble, comme partout ailleurs. Et donc, si vous voulez réaliser ce plat, c'est très très facile. Donc, vous achetez un beau morceau d'aile de raie chez votre poissonnier. Il y a deux manières de le cuire. Le plus simple, c'est de le pocher. Pocher dans un bouillon de poisson ou de légumes. Si vous n'avez pas de bouillon, une eau salée avec une petite goutte de vinaigre dedans. Suivant la taille du morceau, il va falloir le pocher entre 20 et 40 minutes. Vous pouvez aussi le cuire au four à une température relativement basse, autour de 100 degrés. C'est pareil, ça dure 40-45 minutes. Et puis vous faites la sauce grenobloise. Et c'est une sauce que vous pourrez utiliser pour plein d'autres choses. Franchement, elle est délicieuse. Et c'est
un peu dommage. Bon, on peut la mettre aussi. Cette
exactement,
sauce-là.
C'est un peu dommage. Non, mais l'arrêt, c'est délicieux. Vous aimez le turbo, vous aimez la sole, vous aimez tous ces poissons. Et ben, c'est un poisson.
Mais pourquoi alors dans les restos c'est toujours du turbo et c'est pas de l'arrêt?
L'arrêt, c'est un poisson qui n'est pas donné, première chose. Ah. Et deuxième chose, c'est un poisson qui se raréfie, malheureusement. C'est un poisson qui est sur la liste des poissons qui sont menacés. Ah,
c'est les ortolans marins.
Pas ce point-là,
Mais dans les bons bistrots, vous avez une aile de raie au capre.
Ouais, et ben voilà.
C'est pas les pandas non plus,
c'est pas les pandas non plus, mais il faut quand même.
Steak de panda.
Je sais que votre fantasme serait de manger la dernière raie, quoi. Le truc absolu, dire après moi, il n'y en aura plus. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, pour la sauce, c'est du beurre fondu, dans lequel on a mis des petits morceaux de citron, on a mis des Capres, on rajoute un petit peu de filet de citron et des petits morceaux de pain frit, de croûtons, et on pose ça sur le poisson à la chair bien fondante avec des pommes de terre à vapeur. Franchement, c'est délicieux.
Oh bon, moi, je mangerai les croûtons et les pommes de terre à vapeur. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, qui va réussir à nager dans la rivière de l'histoire sans se noyer ?
Oh, pas moi.
Eh bien, on va jouer. Vous êtes prêts à vous affronter ? C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous connaissez le principe, une question pour chacun en cas de départage, c'est-à-dire soit vous avez aucun de vous n'a de bonne réponse, soit vous êtes à égalité, eh bien il faut après, je vous demande un chiffre, il faut s'approcher au plus près de la bonne réponse. Alors Olivier, je commence par vous, c'est la tradition. En 120 après Jésus-Christ, la Norvège n'était pas la Norvège, mais la Calédonie, c'est vrai ou c'est faux ? Calédonie serait l'ancien nom de la Norvège.
À cette époque-là, il y avait des Vikings là-bas. J'ai une chance sur deux, j'en sais rien. Je vais dire que c'est pas vrai. Voilà, c'est faux.
Mais oui, vous avez été bien inspiré parce que vous auriez dû le savoir. La Calédonie, c'est l'ancien nom de l'Écosse.
Ah oui.
Caled signifie dur. La Calédonie n'a jamais été conquise par les Romains et au 5e siècle, le territoire est conquis par les Scots. Ça devient Scotia qui deviendra Scotland.
Et vous aviez lu Astérix chez les Bretons, vous le sauriez. Des Calédoniens.
Les Calédoniens, exactement. Alors, David, vous aimez les inventions, n'est-ce pas ? Le Blanco, pour corriger les fautes, la scie circulaire et la crèche. Qu'est-ce qui a été inventé par un homme ?
Blanco a été inventé par une femme, ça je le sais. La scie circulaire et la crèche, c'est ça ?
Voilà.
On a envie de dire que c'est la scie circulaire qui a été inventée par un homme.
Sûrement un piège.
Effectivement. Ou alors c'est pas un piège et c'est le fait qu'il n'y a pas de piège qui est un piège.
Ouais, ça, c'est le plus grand des pièges,
c'est celui-ci.
Mais c'est le piège qui se
votre intuition à vous, c'est quoi ?
Intuitivement, j'aurais dit que c'était la scie circulaire qui a été inventée par un homme.
C'était la crèche. La scie circulaire est inventée par Madame Babbitt. Par contre, la crèche s'est inventée par Jean-Baptiste Firmin Marbeau, homme politique, fondateur des crèches en France en 1844.
Ah là là, quelle naze.
Mathieu, quand au volant de votre Aston Martin, vous hurlez sur un cycliste, circule l'espèce de plouc. Plouc désigne à l'origine un breton. Vrai ou faux ?
Là, je ne vais pas vous infliger un raisonnement trop long, donc oui, je dirais oui.
Bonne réponse. Et oui, quoi, à la fin du 19e siècle, beaucoup de Bretons viennent s'installer à Paris. Quand on leur demande d'où ils viennent, ils disent Plouaret, Plougade, Plougastel.
C'est ça, voilà. Et c'est un plou général.
Plou, d'où les plouks. Voilà, plou signifie paroisse en breton. Alors, il faut départager Olivier et Mathieu. Je rappelle que la réponse la plus proche remporte la lutte finale. Le 21 juillet 1969 à 2h56, c'est le premier pas d'Armstrong sur la Lune. Aujourd'hui, la Lune et la Terre n'ont plus la même distance qu'à l'époque. Elles s'éloignent de nous. Mais elles s'éloignent de nous de combien de distance par an ?
En quoi ? En kilomètres ? En mètres ?
Alors,
en
je vous la demande en centimètres.
En centimètres.
Moi, il se trouve que je connais la réponse, donc tu peux toujours y aller, vas-y.
Ouais, quel enfoiré.
Oh.
Bon, bah allez.
Alors, Olivier.
150.
150 centimètres.
Ouais.
Non, c'est, moi, je te donne la distance, c'est un moyen mnémotechnique, c'est la taille de ton sexe. 23 centimètres.
C'est. Vous voulez savoir combien de centimètres ? 3,8 centimètres par an.
Alors, pardon, c'est la taille de ton sexe. Je me suis trompé. Voilà.
C'est quand vous dites. Moi, je sais. Non, vous le savez. Vous gagnez, mais vous le savez
mais
pas.
Comment, voilà. C'est du bluff, comment c'est des pompiers mesurer l'adversaire. Un truc pareil
avec des outils de mesure.
Au plus près, la Lune est à 362 600 km de nous. Et au plus loin, 405 400 km de nous. On a fait la moyenne tous les ans. On s'est rendu compte qu'elle s'éloignait un peu plus chaque année.
Voilà. L'autre jour, il y avait une question. Combien ils avaient laissé de sacs de pipi sur la Lune ? Voilà. C'était complètement débile aussi. Non, oui, mais surtout que j'ai réfléchi après. Ah. Le gars, il a passé quelques heures sur la Lune et ils ont laissé 40 sacs de pisse. Quoi.
Mais non, parce qu'il y a eu plein de gens.
Mais non, il y a eu plein de mission sur la Lune, il n'y a pas eu que Neil Armstrong enfin sur la Lune.
10 ou 12.
Ouais. Il est nul sur les
ça
questions lunaires.
Ça m'a empêché de dormir.
Bon, très très belle victoire de qui ?
De vous,
de Bibi. Merci à tous, merci.
Si, c'est si, une si. Victoire, mais pas... pardon, mais entre 60 cm et 3,
23 cm, avais-je dit. À 20 cm près, j'étais bon. Vous savez, 20 cm, ça fait souvent la différence. Historiquement vôtre, s'achève sur cette victoire magnifique. Partir un jour sans retour, c'était le point commun de nos personnages du jour. Est-ce que vous seriez cap, vous Stéphane, de partir un jour sans retour de Paris ? visiblement oui.
Ah oui, oui,
hein,
oui.
Vous êtes vraiment...
Non, mais on revient toujours quand même.
Oui, on revient à ses amours.
Revenir par esprit pratique quand même, on a besoin.
Oui, tout à fait, pour faire cette émission. Quid du programme de demain, Stéphane ?
Demain, on réunit trois dames qui voient souvent rouge. Et avec elles, ça bouge. Les révolutionnaires Rosa Luxembourg, Théroigne de Méricourt.
Et une comédienne rouge aussi, et pas uniquement aux oreilles l'an dernier sur la scène des Césars. Je vous raconte la comédienne engagée Corinne Maziro.
Alors à demain les amis, à demain Mathieu.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.